Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On essaiera de terminer en disant un mot de la BCE. Madame Lagarde a confirmé hier qu'elle va monter ses taux, qu'elle veut ramener l'inflation à 2%. Céline Antonin, bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, vous avez publié Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, co-auteur de La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Et Michael Zemmour, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, maître de conférence en économie à Paris, Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po. J'ai tort de me poser ces deux questions, Jean-Hervé Lorenzi. Pourquoi diable se lancer dans une réforme des retraites quand tous ceux qui sont contre disent qu'elle sert à rien, qu'elle est injuste, qu'elle est inefficace, qu'elle est inutile, que c'est pas le moment, qu'on peut s'en passer, qu'on peut faire autrement? Pourquoi aller faire se lancer dans un truc où il y a que des coups à prendre?
Non, les deux questions que vous avez posées sont très judicieuses, mais ont des réponses qui sont évidentes.
Ben oui.
La première, c'est que je vous rappelle que la loi de la première loi sur la réforme des retraites, celle la réforme par points, a été votée. Il y a une loi France sur la réforme des retraites. Dieu sait si elle était compliquée et difficile à mettre en œuvre, mais la réalité c'est celle-là. Donc je vois mal un président de la République a fait voter une loi, qui a lancé une mécanique. Certes, il y a eu la Covid entre les
mais c'est plus la même réforme
moment.
Du tout, là.
C'est une réforme paramétrique, alors que c'était une réforme systémique, à laquelle moi j'étais très attaché, et qui était une réforme, en plus qui avait l'avantage d'avoir le soutien de la CFDT, ce qui était.
C'est juste. Je crois que c'est plus la peine de l'évoquer parce qu'elle est
oui,
derrière nous.
Oui, sauf que c'est la réponse à votre question. On ne peut pas laisser, de toute façon, l'objet était en l'air. Donc, à un moment, quelqu'un.
Mais si on peut le laisser en l'air. Politiquement, on peut le laisser en l'air.
Non,
on peut dire, voilà, c'est pas le moment. Inflation, guerre en Ukraine, post-Covid.
Non, mais on peut parler du timing, mais le premier aspect. Le deuxième aspect, vous avez dit, aucun gouvernement de gauche ou de droite ne remet en cause les réformes ont rarement remis en cause
les réformes contre lesquelles ils se sont battus avant.
Je vais dire 100% des gouvernements.
Oui.
Il y a eu énormément de réformes des retraites. Les gens ne se sont pas. Elles sont toutes sorties dans la douleur, hein, sauf celle de Balladur, parce qu'elle a eu lieu, elle a été développée pendant l'été 93, mais le reste, ça a toujours été absolument dramatique.
Il y a beaucoup d'hypocrisie, Jean-Avel Lorenzi. Ça veut dire que tous ceux qui tiennent des propos quand ils sont dans l'opposition sur les retraites savent fondamentalement qu'il faut que le truc bouge si on veut le faire vivre. Et je ne crois pas une seconde que Marine Le Pen ramènerait à 60 ans l'âge de départ si elle était présidente.
Écoutez, vous êtes un des rares personnalités formidable, qui arrive à se mettre dans la tête de Mme Marine Le Pen. Mais évidemment que non. Donc, les deux questions sont judicieuses. Est-ce que vous avez un peu formulé la question de manière, c'est une réforme que jugez injuste, inefficace, etc.
Mais c'est ce qu'on a entendu tout le temps.
Il faut être un tout petit peu plus nuancé. On va en parler, j'imagine, avec Michael. Sur la réalité, juste peut-être un mot, le corps a quand même mis un désordre dans cette opération majeure. Je veux dire, le corps qui est pas capable de donner une opinion claire, nette et précise sur le sujet.
C'est pas son rôle.
Si, c'est son rôle.
Le d'avoir un
rôle d'expertise. Deuxième aspect.
On va passer la parole à Jean-Hervé. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est quand même
d'éclairer le débat public. D'éclairer le débat public, de donner des hypothèses en matière de productivité, etc., de montrer des simulations. Mais son rôle n'est pas. Enfin, hier, il a un rôle d'expertise.
Oui, mais ce qui est extraordinaire.
Mais ensuite, la décision politique ne dépend pas de lui.
Je suis d'accord, Céline, je suis d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde pouvait trouver dans le rapport du corps de l'argument pour être d'un côté ou de l'autre.
Mais ça prouve qu'il fait bien son travail.
Pas laisser le dire ça. Je veux dire, le corps, à un moment,
n'hésitez pas à couper la parole à Jean-Hervé Lorenzi,
de temps de productivité, de gain de productivité, de ceci, et dit il y a un risque ou non de dérapage.
Mais
on peut avoir une opinion ou non.
Il dit il n'y a pas de risque.
Il n'a pas dit, j'ai passé suffisamment de temps avec
Michael Zemmour.
Donc,
En fait, le Conseil d'orientation des retraites, il fait un diagnostic de l'état de la situation, comme l'OFCE fait un diagnostic de la macroéconomie. Et l'OFCE vous dit pas, il faut faire telle ou telle réforme. Il dit, ça va bien, ça va mal, c'est grave, c'est pas grave.
Oui, mais pas avec 25 000 donc, possibilités.
Mais donc le corps, justement, parce qu'il est transparent sur ses hypothèses, il nous dit la situation du système de retraite. Et il nous dit, les dépenses de retraite sont stabilisées. Ça va se faire au prix d'un décrochage des pensions dans les 20 années qui viennent. Et il y a un déficit prévu, qui est un déficit modéré, qui ne met pas en danger le système. Voilà. Et il y a une deuxième institution, le comité de suivi des retraites, qui, lui, est chargé de faire des recommandations. Et ces recommandations sont assez claires. Il dit, on est à risque de déficit résiduel persistant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas dangereux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dont il faut s'occuper. Et lui est chargé de faire des recommandations et il dit, attention, si on ne fait que le levier d'âge, il y a un problème parce que ça va raccourcir rapidement la retraite par rapport aux générations qui viennent de passer. Il y a trois leviers. Il faut réfléchir à l'équilibrage, mais il faut réfléchir aux trois leviers. Donc on a une institution qui fait un diagnostic.
Les leviers, c'est combien je paye, combien je touche quand je suis à la retraite et combien de temps je travaille.
Exactement. Voilà, c'est ça. Et la difficulté, c'est que le gouvernement n'a pas suivi les recommandations du comité de suivi des retraites, qui n'étaient pas des recommandations fermes, qui étaient des grilles, des pistes. Il a choisi d'utiliser un seul levier, l'âge de la retraite. Alors, avec deux outils, hein, l'âge minimal de départ à 64 ans et l'accélération de la durée de cotisation à 43 ans. Et en choisissant ce levier-là, il fait une réforme qui est très rapide, plus que nécessaire, et qui est brutale parce qu'elle va concentrer tous les efforts dans les 10 premières années sur les personnes aux portes de la retraite. Personnes qui ont 55 ans ou plus.
Vous avez identifié les dates de naissance des gens qui vont vraiment être les plus touchés. Je reviens à ma question de départ, Céline Antonin. Inefficace, injuste, inutile. Bon.
Non.
Si c'était le cas, pourquoi faire ça? On sait quand on est président qu'on va s'en prendre plein la figure si on met le mot retraite avec en plus une borne d'âge. C'est évident qu'on va avoir 80% d'opinion.
Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est le fait que Emmanuel Macron ne voulait pas rester sur un échec avec la réforme à points. Je pense parce que un échec.
Oui.
Et il voulait pas rester sur ça. Bon, alors en plus avec les écueils, moi personnellement, j'étais pas en faveur de cette réforme parce que je pense qu'elle comportait beaucoup d'écueils, notamment sur la baisse pour les carrières heurtées, la baisse des pensions, enfin etc. On reviendra pas là-dessus. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il profite aussi de cette réforme pour donner des gages à son aile droite en fait et pour élargir sa majorité. Donc pour moi, c'est deux raisons politique, mais c'est quelque part, ce sont de mauvaises raisons parce que
pour des raisons politiques, il l'a fait.
Pour moi, ce sont des raisons.
Pas pour des raisons fondamentalement de survie du système, c'est votre analyse. Alors, il y a aussi ceux qui disent, et c'est un élément, c'est aussi un signe envoyé au reste du monde qui nous prête de l'argent.
Oui, aussi. Bon, alors, bien sûr, il y a l'aspect budgétaire aussi compte parce qu'il faut aussi donner des gages, même à la Commission, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on sort aussi de la crise Covid, qu'on a le bouclier tarifaire contre l'inflation. Enfin, on dépense quand même beaucoup aussi, donc c'est un moyen aussi de dire, bah, vous voyez, je fais quelques économies. Mais pour moi, l'argument, il est quand même essentiellement politique.
Quand vous êtes un fonds souverain à 5000 km de la France, 49.3, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous savez qu'un pays qui dit je réforme ma retraite en bougeant ma borne d'âge, c'est un pays qui essaye d'assurer l'équilibre de ses finances en théorie et ça vous rassure. Voilà. Vous, ça c'est basique hein, comme lecture. C'est simpliste. Michael Zemmour. Ouais.
Vous avez vu que Moody's, l'agence de notation, dit finalement nous on met une mauvaise note. On fronce les sourcils sur l'instabilité politique liée au 49.3. Mais je voudrais revenir sur ce que vous dites.
Allez-y.
Pourquoi est-ce que le président de la République fait cette réforme? Vous avez donné des explications. Ce qui est faux, par contre, c'est le discours qui consiste à dire « c'est dramatique, c'est urgent et j'ai pas le choix ». Ça, c'est pas vrai. Il y a évidemment le choix, il n'y a pas d'urgence. Pour donner juste un ordre de grandeur, on prédit un déficit de 10 à 15 milliards dans les 5 années qui viennent. On a des réserves de l'ordre de 200 milliards. Les réserves ne sont pas faites pour éponger le déficit, mais c'est une preuve supplémentaire qu'on n'est pas en danger d'urgence.
Dans ces 200 milliards, Michael Zemmour, on est d'accord, vous pensez au fonds de réserve des retraites, à Agirc-Arrco, mais aussi à tous les régimes privés. Les notaires, les pharmaciens, si vous commencez à leur dire que leurs sous-sous vont...
Et à l'Agirc-Arrco aussi.
Cet argent, c'est bien ça.
Sans rentrer dans les détails, je veux juste vous dire que si vous avez un déficit léger de 3% de votre chiffre annuel, mais qu'à côté vous avez 200 milliards qui représentent quasiment une moitié d'année, vous n'êtes pas en urgence. Et donc le discours qui dit « je n'ai pas le choix, c'est urgent, si je ne fais pas la réforme, les marchés vont s'affoler », ce n'est pas un discours sérieux parce qu'il ne permet pas d'avoir la discussion sur qu'est-ce qu'on fait. On a un déficit qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On a trois leviers. Il y a la question très importante de l'emploi des seniors, souvent soulevée, et qui serait en partie une solution. Et donc, c'est ça le problème de fond. C'est de dire, j'ai pas le choix. Évidemment, il y a le choix.
Jean-Hervé Lorenzi, Céline Antonin.
Juste peut-être une chose pour dire, cher
Marquez, je peux vous laisser, vous faites les choses.
C'est quand même le sujet clé aujourd'hui. Dieu sait si je partage l'opinion selon laquelle le taux d'activité des seniors, c'est nous qui avons fait les calculs. Évidemment que c'est un levier beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. Il n'empêche que on a des déficits publics qui sont très importants, ça existe. Donc je les mets dans le paquet. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on est de l'ordre de 10 milliards ou pas. D'ailleurs, Hervé Lebras explique que c'est peut-être pas le cas. Si tout dépend de l'évolution de l'âge à lequel on disparaît. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas que 10 milliards. Il y a 30 milliards. Ah. Alors ça, le corps n'aime pas qu'on dise ça.
Oui, ils veulent
pas. 30
pas,
milliards qui sont. Si, c'est vrai.
C'est
30
vrai.
Milliards qui sont en réalité. Et je trouve ça très bien. J'en ai bénéficié. Toi aussi, tu vas en bénéficier. Donc je
rappelle pas... Jean-Hervé parce que c'est complexe. C'est la cotisation de l'État employeur qui surcotise au régime de retraite.
Bien sûr.
Nettement plus qu'un employeur du privé. Et donc il fait rentrer effectivement une trentaine de milliards par la case recettes. Tandis que si elle ne rentre pas.
Tu peux vous expliquer ça.
Par la case recettes.
Tu peux l'expliquer avec deux. Il n'y a pas besoin de beaucoup l'expliquer. C'est d'une certaine
manière. Expliquer, voilà. Mais c'est quand même vrai.
Donc c'est pas le cas.
Quoi, c'est pas vrai?
Il y a deux systèmes de retraite en France.
Oui.
Il y a le système de l'État et il y a le système des salariés du privé. Les salariés du privé, ils ont historiquement une caisse pour une raison très simple. C'est que si votre entreprise fait faillite un jour, vous avez envie d'avoir une sécurité sur votre retraite et donc que votre retraite soit pas garantie par votre entreprise, mais par une caisse. C'est pour ça qu'il y a un système de cotisation par répartition. La retraite de l'État ne fonctionne pas par répartition. Traditionnellement, l'État est son propre assureur et donc le seul engagement de l'État, c'est qu'il paye ses fonctionnaires en activité, et quand les fonctionnaires sont à la retraite, ils maintiennent leur traitement. D'accord? Une partie de leur traitement, et c'est ça leur retraite. Donc on a deux systèmes, un par répartition, et de l'autre côté, l'État qui maintient le traitement des fonctionnaires. Et donc, on peut pas appliquer, quand on dit 30 milliards, etc., on applique le mode de comptabilité de la retraite du privé à celui de l'État. C'est aussi faux que si, par exemple, j'examinais la stabilité du système des retraites des salariés du privé avec le système d'une banque. C'est pas une banque, c'est un système par répartition. Bah, de la même manière, le système de l'État, c'est pas un système par répartition.
Non, mais à l'arrivée, Michael, l'ensemble des retraités passe bien par la CNAV.
Non. Pas du tout, c'est le régime de la fonction publique d'État. Et donc les cotisations dont vous parlez, les surcotisations, c'est quelque chose de très récent. Dans la fonction publique, depuis une quinzaine d'années, on fait apparaître des fausses cotisations que l'État se paye à lui-même. Et les gens qui n'ont pas la mémoire de ce que c'est la retraite de la fonction publique d'État croient qu'il y a un déficit caché. Mais c'est
Michael,
pas du tout ça.
Michael, moi qui suis dans ce cas-là,
on avance après. Hein.
Que je suis bénéficiaire à la fin, je compare ma retraite par rapport à la retraite d'un garçon ou d'une fille qui a le même âge que moi, et je regarde quelles sont les conditions dans lesquelles il reçoit de l'argent. Et en fait, c'est un avantage que les fonctionnaires ont, et réjouis. Mais bien sûr.
Regarde la retraite, je pense qu'il faut
qu'on
regarde. Aussi la vie active, et je suis désolée, mais dans la fonction publique, enfin globalement, on regarde disons diplôme égal et à qualification égale équivalente, les salaires ne sont pas comparables non plus. Mais et donc il faut regarder sur l'ensemble.
Très bon argument.
Oui, mais non, mais donc la retraite est aussi pour moi dans la fonction publique. Il y a un certain nombre de métiers pour lesquels on lisse en fait les choses sur le cycle de vie par rapport au privé où on a.
Sans revenir là-dessus, très bon argument. Très bon argument. Je suis d'accord avec ça. Je suis de vous trois le seul qui est bénéficiaire. Donc arrêtez de m'expliquer ce que je reçois chaque mois. Il se trouve que les rémunérations sont plus faibles. On est d'accord. Les conditions ne sont pas les mêmes. On est d'accord. Il y a un désavantage et des inconvénients. On a peut-être raison, et j'en m'en réjouis, mais il se trouve que l'État remet de l'argent dans le dispositif. C'est comme ça.
Cette année, l'ADRES, donc le ministère des Affaires sociales, a sorti une étude. Qu'est-ce qui se passerait si on appliquait aux salariés du public les règles du privé? Et la réponse, c'est ça dépend, mais ça serait pas plus favorable du tout en moyenne.
Je suis d'accord.
Ça serait à peu près pareil. Donc on peut pas dire que les retraites dans le public sont plus favorables.
Mais il y a des variations. C'est une dépense publique.
Oui,
c'est une dépense publique.
C'est une dépense publique.
Alors on peut dire que l'État ne dépense pas assez pour les rémunérations des fonctionnaires. C'est un premier sujet.
Bien sûr.
Mais il se trouve que pour les retraites, il dépense 30 milliards de plus. Je veux dire, c'est quand même enfantin, ça.
Bon, Michel, tous les sujets sont passionnants, mais on n'a pas, en fait, c'est pas un colloque, en fait, ici, on peut pas tenir jusqu'à midi.
Il y a peut-être un dernier argument, c'est que je pense que c'était un moyen pour récupérer aussi le solde de certaines caisses de retraite spéciale. Je pense à la Banque de France, par exemple.
Ah, oui.
Donc je pense que ça aussi, c'était un moyen.
Alors, on peut s'amuser. On peut s'amuser effectivement à aller. On peut s'amuser à aller prendre un peu d'argent, par exemple, à la maladie professionnelle et aux accidents du travail. On peut peut-être s'amuser à aller en chercher un petit peu dans des caisses d'institutions publiques. Encore une fois, si on commence à dire aux notaires, aux pharmaciens et consorts que eux aussi, ils font partie des 200 jolis milliards qui serviraient de police d'assurance.
On l'a dit aux employés, mais pas aux notaires.
Ça va très mal se passer. Hein.
Et la réforme des retraites est acceptable par beaucoup de gens, parce que la CFDT, qui est un syndicat pas tout à fait antipathique, se trouve et être d'accord sur l'idée qu'on réforme à travers le point. Donc, ça veut dire que c'est pas un sujet tabou. On en discute, et j'aime beaucoup la manière dont vous en parlez, mais c'est pas un crime contre l'humanité de dire qu'il y a une évolution démographique qui fait qu'on parle d'un sujet.
Moi, je suis absolument d'accord, mais simplement les conditions dans lesquelles elles
sont
très clivantes,
bien
et
sûr.
Ne peuvent que susciter.
Il y avait le choix, il y avait l'espace pour un débat qui n'a pas eu lieu.
Il faut poser des sujets sur l'emploi des seniors et autres.
Non, mais là, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, ça a eu le mérite au moins de l'ouvrir en grand, ce sujet, même s'il n'est pas parfaitement renseigné, même pas du tout renseigné. En tout cas, le sujet est ouvert en grand, et ouvert en grand dans tous les esprits aujourd'hui. C'est plus simplement une histoire d'experts réunis dans un salon à huis clos. Quand Michael s'est rendu gentiment disponible pour être là ce matin, il me dit hier qu'il y a des erreurs dans l'étude d'impact sur les retraites. Et je lui réponds, je n'ai pas vu ça, votre expertise m'intéresse.
On savait que la réforme avait été faite très vite et que donc il manquait des choses dans l'étude d'impact, notamment il manque un bon passage sur la macroéconomie, parce que quand on réforme les retraites et qu'on veut pousser davantage de personnes sur le marché du travail, faut faire la macroéconomie, tout ça, on savait que ça y était pas. Et donc on peut discuter des hypothèses, ça c'est courant. La nouveauté, c'est que en re-regardant cette étude d'impact, il y a une erreur de méthodologie. Qui est pas très importante en montant, mais qui est quand même assez significative de la précipitation. Je vous explique. Le gouvernement, quand il rend sa copie à Bruxelles, il a déjà intégré la réforme des retraites comme un élément qui va augmenter l'emploi. Et c'est ce qu'il a mis dans son programme de stabilité. Et donc, il a déjà compté à l'avance la hausse des recettes de cotisation qui est liée à l'augmentation de l'emploi des seniors. Et quand il va compter les effets de la réforme des retraites, il va recompter une deuxième fois, d'une part, les retraites qu'il ne va pas payer, mais aussi cette hausse des cotisations. Autrement dit, dans l'étude d'impact de la réforme des retraites, il y a entre 2 et 4 milliards de recettes supplémentaires qui sont comptées deux fois. Une fois avant la réforme, parce qu'elles sont comptées dans le programme de stabilité, et une fois dans le calcul de la réforme, parce qu'elles sont comptées dans les gains. Et donc ça, c'est...
Elles apparaissent fois 2 au bout du bout, parce que...
Tout à fait.
Qu'on l'intègre dans le document pluriannuel de Bruxelles, à la limite, ça se comprend.
Mais on aurait dû les retirer quand on calculait le solde de la réforme.
Ça nous fait quoi? 4 milliards de...
En 2017, ça fait 3-4 milliards sur les 17. Voilà. Il y a bien 17 milliards d'économies liées à la réforme, mais par contre, il y en a 3 ou 4 qui avaient déjà été comptées avant la réforme. Et donc, c'est une erreur méthodologique assez importante sur la construction.
Michael a raison. Cela dit, il y a tellement d'hypothèses dans cette opération. Nous sommes, là je parle de la chaire transition démographique, nous avons fait des calculs sur l'évolution des taux d'activité en montrant que en 2032, on arrivait à l'équilibre tout simplement parce qu'on augmentait 10% en 10 ans, l'augmentation du taux d'activité de 55 à 64 ans. Donc c'est vrai, mais c'est pas...
Je suis d'accord avec
Céline, c'est pas le sujet, je veux dire, le problème de méthodologie, d'autant plus que ça peut être utilisé dans les deux sens.
Non, je suis d'accord avec vous que globalement le diagnostic n'est pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses trop optimistes sur le chômage, il y a des hypothèses trop pessimistes sur la fonction publique qui ont tendance à plomber le déficit. C'est une de plus. La différence de celle-là, c'est que c'est pas une hypothèse transparente. C'est une erreur dans la construction du document.
Et vous diriez que c'est une erreur ou c'est un où on joue un peu avec l'ambiguïté?
Ça, franchement, j'en sais rien. Ah.